est 13h à Paris, 11h en temps universel. Bienvenue sur RFI.
Mailleul de Charon.
Et à la une de ce journal, Israël affirme avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'armée israélienne qui a massivement bombardé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement. Nous entendrons les réactions des habitants de ce quartier, des habitants déplacés après ces frappes massives. L'annonce n'a pour l'instant pas été confirmée, ni par le Hezbollah, ni par le Liban. À la tête du mouvement islamiste libanais depuis 32 ans, âgé de 64 ans, Hassan Nasrallah n'a plus été vu en public depuis des années. En Ukraine, le bilan de la double frappe russe contre un hôpital de la région de Soumy s'alourdit. Au moins 13 personnes sont mortes, une dizaine ont été blessées. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, réagit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis la politique en France, le MoDem fait sa rentrée politique en Bretagne. Le parti centriste qui a obtenu des ministères au sein du gouvernement de Michel Barnier. Mais les militants restent divisés, des députés également le jugeant trop à droite. Six jours après le début des frappes visant le Hezbollah au Liban, Israël annonce avoir tué le chef du mouvement chiite libanais. Selon plusieurs télévisions israéliennes, Hassan Nasrallah a été visé par une frappe d'une violence inouïe hier dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Ces bombardements ont poussé les habitants à fuir le quartier, des déplacés incrédules ce matin.
Dieu seul le sait. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Quoi qu'il arrive, Dieu est le plus grand, qu'il les maudisse.
La victoire est sienne, Inch'Allah. Nous ne sommes pas tristes, car je pense qu'il est toujours vivant.
Non, il n'a rien. Dans le communiqué, ils n'ont rien dit. Dieu merci. S'il meurt, c'est fini, c'est le chaos. Mais en même temps, il peut être remplacé. Le Hezbollah, ce n'est pas uniquement les gens qui étaient réunis dans ce bâtiment. Le mouvement est partout.
Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Beyrouth, à Abla Jounaidi. Abla, on vient de l'entendre, ces habitants de la banlieue sud sont pour le moment dans le déni.
Oui, les habitants qu'on vient d'entendre refusent d'y croire. Il faut dire que ce conflit, c'est aussi une guerre informationnelle hein, depuis le début et qu'en l'absence de confirmation du Hezbollah, la population a tendance à considérer les annonces israéliennes comme tout simplement fausses. Pour l'instant, les seuls communiqués émanant du parti chiite évoquent les frappes lancées contre Israël. Un silence sur le sort de Hassan Nasrallah qui laisse le loisir aux analystes ici d'envisager des scénarios multiples. L'armée israélienne estime de son côté qu'elle a réuni assez d'éléments pour conclure qu'elle a atteint son objectif. Et elle n'en reste pas là. Ce samedi, des panaches de fumée se dessinent dans le ciel de la banlieue sud. Des drones survolent en permanence la région. On entend de loin les déflagrations. Les frappes se poursuivent dans des zones résidentielles, autour de l'aéroport, dans la banlieue sud. Aujourd'hui, toujours, dit l'armée israélienne, pour supprimer des objectifs militaires. Le gouvernement libanais doit se réunir en cellule de crise cet après-midi. Qui se disait préparer une crise d'ampleur, mais il peine en fait à répondre à l'afflux des déplacés de ces dernières heures. Plusieurs familles ont passé la nuit dernière dehors, fuyant l'horreur de l'attaque d'hier soir. Les décombres de l'attaque n'ont pas été complètement enlevés. Le bilan humain risque lui aussi de s'élever encore.
Merci Abla Jounaidi, envoyé spécial de RFI à Beyrouth. Et l'armée israélienne qui dit ce matin avoir frappé plus de 140 cibles du Hezbollah au Liban depuis la nuit dernière. Pour l'instant donc le Hezbollah qui ne confirme pas la mort de son dirigeant Hassan Nasrallah, chef donc du mouvement depuis 32 ans, âgé de 64 ans et considéré comme l'homme le plus puissant du Liban. Bonjour Eike Schmidt.
Bonjour Mayal.
Vivant dans la clandestinité, il n'a plus été vu en public depuis des années.
Oui, justement, pour échapper à l'État hébreu, Hassan Nasrallah vivait terré dans des caches. Mais à chaque fois que le chef charismatique du Hezbollah prenait la parole à la télévision, eh bien tout le pays était suspendu à ses discours. Orateur enflammé, le chef charismatique fait l'objet d'un véritable culte de la personnalité parmi ses fidèles, surtout depuis que ses combattants ont tenu tête à Israël pendant la guerre de 33 jours en 2006. Avec le soutien chrétien de l'Iran, cet homme religieux chiite à la barbe poivre et sel et au turban noir, a fait de la milice du Hezbollah une force politique incontournable, un véritable état dans l'état avec ses hôpitaux et ses écoles. Et sur le plan militaire, sous son règne, le Hezbollah est devenu un adversaire sérieux d'Israël avec quelques 100 000 combattants. Fin stratège, il a aussi pris part au conflit en Syrie voisine et fait pencher la balance du pouvoir en faveur du président Bachar al-Assad en scellant ses alliances avec des chefs religieux en Iran ou encore avec le Hamas. Eh bien, Hassan Nasrallah était devenu l'ennemi juré d'Israël.
Merci Heike Schmidt. Et par ailleurs, qu'en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le live de la rédaction sur RFI.fr. En Ukraine, le bilan s'alourdit après la double frappe russe contre un hôpital dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays. 13 personnes ont été tuées et 12 blessées. Selon le ministre de l'Intérieur ukrainien, une première attaque a tué une personne et endommagé plusieurs étages de l'hôpital, ce qui a entraîné son évacuation. Une deuxième explosion a ensuite touché les secouristes et policiers qui s'étaient rendus sur place. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, réagit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un nouveau drame sur la route de l'Atlantique entre l'Afrique et l'Europe. Le naufrage d'un bateau de migrants a fait au moins 9 morts et 48 disparus dans la nuit de vendredi à samedi près des Canaries. Le bateau a chaviré au sud du port de La Estaca sur l'île d'El Hierro. C'est l'une des îles de l'archipel espagnol selon les secours. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, une agence onusienne, au moins 4857 personnes ont péri ou ont disparu sur cette route depuis 2014. Au moins 44 morts et des millions d'Américains toujours sans électricité. Le passage de l'ouragan Helene a provoqué de nombreux dégâts dans le sud-est des États-Unis. De la Floride à la Caroline du Nord, des vents forts et des pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines, des chutes d'arbres et ont soufflé des habitations. Plus de 1500 personnes ont été mobilisées par l'administration Biden. La politique en France à présent et les centristes du modèle qui sont réunis à la cité balnéaire de Guidel en Bretagne jusqu'à dimanche. Ce sont les universités de rentrée du parti qui a réussi à obtenir plusieurs ministères dans la nouvelle équipe gouvernementale de Michel Barnier. Le Modem est toujours divisé sur sa participation au gouvernement. Des députés le jugent trop à droite. Victorien Villaume, vous êtes à Guidel et chez les militants aussi, le débat existe.
Dans un cadre idyllique, à deux pas de la plage et de l'océan, quelques 200 militants centristes réunis pour écouter les différents discours, comme Yves, fidèle du Modem. Lui n'a pas d'a priori sur le gouvernement Barnier, pas d'enthousiasme non plus.
Je pense pas qu'on avait beaucoup d'autres solutions, puisque la gauche a refusé d'y participer. Mais bon, il faut lui laisser faire son travail. Le Premier ministre est un technicien, donc il faut que tout le monde fasse un peu le dos rond.
Le dos rond, c'est ce que fait justement Jules Pasquier, secrétaire général des Jeunes Démocrates, qui accepte le casting du nouveau gouvernement, tout en assurant que le Modem est sur ses gardes.
Forcément, en tant que centriste, les personnalités plus à droite nous gênent un tout petit peu, forcément. Mais c'est le jeu, et si vous voulez, c'est un peu le contexte qui veut ça aussi. Il fallait arriver à faire un gouvernement.
Sauf que le résultat n'est satisfaisant ni pour les uns, ni pour les autres, tranche Christian, militant et maire étiqueté Modem.
Ce gouvernement va avoir de grosses difficultés. On a effectivement le budget qui doit être adopté, et là, je crains fortement de très grosses difficultés, et ça voudrait dire que derrière, on tombe dans un process qui sera très pénalisant pour la France.
Comme beaucoup au Modem, Christian aurait préféré voir arriver à Matignon l'ancien socialiste Bernard Cazeneuve. À Guidel, Victorien Villaume pour RFI.
L'ancien socialiste et ancien Premier ministre qui est justement invité demain dimanche pour la dernière journée de l'université pour prononcer un discours. En France, toujours 6 mois après l'inscription de l'IVG dans la Constitution, des rassemblements sont organisés à Paris et dans plusieurs villes pour réclamer des garanties au nouveau gouvernement de Michel Barnier. Le collectif national pour le droit des femmes réclame un accès à l'IVG sur tout le territoire. La garantie pour toutes du choix des méthodes et des mesures contre les activistes anti-IVG. Et puis l'Agence mondiale antidopage fait appel dans le dossier Yannick Sinner, contrôlé positif à deux reprises, au Clobestol. En mars, le numéro 1 mondial du tennis avait été blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis. L'AMA demande une période de suspension d'un à deux ans pour le joueur italien. Réfi, 13h10 à Paris, tout de suite, place au Carrefour du Maghreb.